Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour aborder ce nouveau volet sur les femmes artistes, artistes de sexe féminin. Alors, la dernière fois, nous sommes partis de loin, de l'Antiquité, pour aborder le Moyen-Âge, et nous arrivons maintenant à la Renaissance. Alors, la Renaissance est une période de renouveau, d'ouverture, de transformation sur bien des plans. L'art et la culture, évidemment, n'y échappent pas. Et bien des hommes et femmes se consacrent alors pleinement à la musique, la danse, la littérature. Alors la peinture, la sculpture, l'architecture sont également à l'honneur en Europe, notamment en Italie avec Laura de Médicis entre autres, ou en France grâce en partie au roi François Ier qui fera appel à des personnalités des arts et des sciences et parmi eux Léonard de Vinci. Alors les puissants mécènes soutiennent l'ensemble de ces expressions artistiques, qu'elles soient à la gloire de Dieu ou plus prosaïquement à celle des hommes, ceux qui se sont distingués par leurs prouesses ou issus de grandes familles régnantes ou simplement prestigieuses. C'est d'ailleurs le courtisan Badalsare Castiglione qui nous donne témoignage de cette époque naissante dans son célèbre ouvrage écrit au début des années 1500 et nommé « Le livre du courtisan ». Alors, le livre, je ne l'ai pas lu, mais il semblerait qu'il nous fait côtoyer le raffinement de la cour où les dames de la haute société profitent de leur influence pour promouvoir et diffuser les arts ou s'impliquer également dans l'éducation. Et chez elles, il souligne les esprits brillants, met en valeur l'habileté pour conseiller ainsi que les mœurs distinguées. Alors cependant, et malgré ce foisonnement, globalement les femmes ont du mal à sortir des couvents et aussi des cadres étroits dans lesquels on les cantonne à cause des préjugés sociaux qui restent en général bien ancrés et limitatifs, notamment lorsqu'une femme veut pratiquer un art avec une trop grande application et que cet investissement la conduit à une activité constante et régulière. Aussi la femme artiste, l'artiste femme est-elle l'objet de préjugés négatifs. D'ailleurs, l'un des peintres et écrivains, critique d'art de la Renaissance, nommé Giorgio Vasari, affirmait « Les femmes procréent et les hommes créent ». Alors le ton est donné, approuvé par plus d'un, mais nous allons voir comment les femmes vont réussir à sortir des sentiers battus et malgré tout à s'affirmer. Alors je citerai ainsi Laura Battiferri, poétesse italienne du XVIe siècle, l'épouse d'un sculpteur et architecte florentin nommé Bartolomeo Ammanati. Celle-ci a évolué parmi les artistes amis de son mari. Elle va développer sa propre expression à travers la poésie, ce qui fait que ses poèmes seront diffusés avec succès en Italie à l'étranger. Et son livre, intitulé « Le premier livre des œuvres toscanes », lui ouvre les portes de l'Académie degli Intronati de Sienne, qui est un collège d'aristocrates érudits, écrivains et humanistes. Alors c'est également l'italienne Veronica Gambara, du XVe-XVIe siècle, poétesse, aussi l'un des plus grands poètes de la Renaissance, mais aussi femme d'État et dirigeante politique, rôle qu'elle assuma par obligation après le décès de son mari. Et ses qualités humaines seront reconnues par ses administrés et notamment par les artistes qu'elle soutiendra, à l'exemple du peintre Antonio Allegri. Alors c'est une femme instruite, née aristocrate, ce qui favorisera certainement son instruction puisqu'elle a étudié la théologie, la philosophie, les lettres classiques et elle recevra dans ses salons tout le gratin aristocratique et intellectuel de l'époque. Elle sera connue en tant que comtesse de Correggio en se mariant avec un homme de 26 ans son aîné, de qui elle aura des enfants. Son mari se montrera avec elle attentif et bienveillant, si bien qu'à sa mort, sans doute était-ce un mariage d'amour, elle restera inconsolable et composera des poèmes d'amour en son honneur. Alors nous avons l'exemple d'une courtisane romaine du XVIe siècle nommée Tullia d'Aragon, qui a été considérée également comme l'un des plus grands poètes de la Renaissance. En plus d'être poétesse, elle était musicienne, elle chantait, dansait et était philosophe. Elle a écrit notamment une pièce nommée « Dialogue sur l'infini de l'amour ». Alors, tout un programme qu'elle a développé où elle semblerait qu'elle ait affirmé l'égalité entre hommes et femmes car elle apprenait aussi bien liberté sexuelle que de penser pour chacun. Et de plus, elle pensait que la meilleure façon pour l'amour d'être digne et respectable, c'était de reconnaître et accepter ses pulsions et de lier désir sexuel et spirituel. Et il semblerait ainsi qu'elle ait été adepte d'un libre échange égalitaire consenti par chacun à tous les niveaux de l'être. Bon, alors encore une fois, je fais un résumé des éléments que j'ai pu trouver, notamment sur Internet, en essayant de recouper l'information, en lisant des extraits, bref, en cherchant. Aussi, si je vous livre la pensée de Tullia, ce que j'en ai compris, eh bien, je le fais parce que tout simplement, sa réflexion, plutôt sensée, livrée avec 5 siècles d'écart d'une autre, me semble d'une incroyable modernité. Alors, ceci dit, à cette époque, pour en revenir au statut de la femme et à sa ligne de conduite dictée principalement par l'Église, il n'était pas rare qu'une courtisane soit érudite et artiste, même si ses conditions d'existence l'enjoignaient à faire commerce de ses charmes pour survivre et vivre, ne l'oublions pas. Alors il faut dire qu'à cette époque, au moins dans l'Italie du XVIe siècle, ces femmes s'intégraient un peu mieux dans l'ordre social, ce qui minimisait leur soi-disant décadence honteuse au lieu des bien-pensants. Alors pourquoi cette tolérance relative, du moins pour certaines un peu mieux traitées et considérées, parfois même avec un physique pas toujours attrayant? Eh bien, j'ai lu à ce sujet que les hommes d'une certaine qualité intellectuelle, mariés ou peu disposés à convoler, recherchaient un pendant féminin avec lequel échanger sur des sujets un peu plus subtils, on va dire comme cela. Et la société étant ce qu'elle était, eh bien, ces femmes, même désignées pour l'acte sexuel, pouvaient interpeller pour d'autres sujets quand même. Alors le mépris affiché de la femme parce qu'à disposition pour le sexuel est un fait qui s'est aggravé par la suite, il perdure encore maintenant et parfois même uniquement parce que la femme ne rentre pas dans les cadres désirés ou imposés par l'autre, bon peu importe que vous meniez ou non vos charmes. Bon alors comment ça se manifeste? Eh bien tout simplement par les propos dévalorisants, les insultes proférées par les hommes, mais aussi les femmes, souvent confortablement installées dans un conformiste social, notamment via le mariage. Bon, le but c'est de dénigrer, de ramener la femme à une situation subalterne pratique, que son célibat ou même son apparence de jolie fille par exemple va justifier étant donné qu'elle n'est que femme. Bon, oserais-je dire que ce sont les lieux communs habituels issus d'un conformisme de pensée stéréotypée ou ancrés dans le cerveau reptilien depuis la nuit des temps pour qu'un être se valorise au détriment de l'autre en affichant un mépris de circonstance. Mais il est peut-être à méditer sur cet état d'esprit qui mène à la discrimination. C'est un sujet beaucoup abordé de nos jours et notamment à RLP. Discrimination lorsque l'autre est infériorisé en tant qu'être humain parce qu'il est différent socialement, culturellement ou en fonction de sa façon de vivre ou de sa couleur de peau, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et la liste semble longue, vu l'imagination de l'être humain pour se pourrir la vie, tout simplement. Alors, pour en revenir aux femmes, ne soyons pas dupes que certaines ont droit au respect uniquement parce qu'elles sont mariées et portent le nom du monsieur, qui, lui, de par sa qualité pleine et entière d'être humain, se doit d'être respecté. Ainsi va le monde. Peu importe le sens, les pensées tournent avec un petit tour et puis reviennent servies à la sauce du moment, éternel recommencement avec les tourments qui vont avec. Bien, ben revenons à notre sujet avec une autre courtisane connue du XVIIe siècle, cette fois une Française nommée Ninon de l'Enclos. Elle a brillé par ses qualités puisqu'elle était femme de lettres, musicienne, également polyglotte en parlant plusieurs langues. Et elle, à son époque, considérait la religion comme source d'inégalité entre hommes et femmes. Alors, allons un petit peu du côté des femmes artistes plasticiennes, notamment les peintres, qui, elles, vont se confronter à des obstacles concernant l'apprentissage des techniques, qui sont à cette époque difficilement abordables, non pas parce que les femmes sont incapables de se les approprier, mais parce que les hommes leur barrent le chemin. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette époque, l'art est un métier, une profession qui demande un apprentissage long et laborieux afin de maîtriser toutes les techniques. Alors, j'abordais un peu tout cela au début de mes émissions sur la voie des arts pour expliquer l'art plus traditionnel, proche de l'artisanat, afin de le différencier de certains courants d'art contemporains. Bon, le but, c'était de comprendre l'art en suivant les évolutions au cours du temps. Alors donc, vous aviez compris qu'à ces époques, Moyen-Âge et Renaissance, l'artiste était surtout assimilé à un artisan, détenteur d'un savoir-faire, notamment issu d'une tradition enseignée par un maître, avec des techniques qu'il devait maîtriser avant d'exprimer son talent en peinture ou en sculpture. Le peintre et le sculpteur de la Renaissance débutent son apprentissage, bien souvent lorsqu'il est encore enfant, dans un atelier dirigé par un maître au milieu d'autres comme lui et d'artistes plus confirmés. Alors il y reste apprenti plusieurs années à travailler de longues journées, et c'est pour tous pareil, et ceci avant de pouvoir ébaucher ne serait-ce qu'un dessin ou s'attaquer à une œuvre. Alors, les œuvres sont commanditées surtout par les détenteurs du pouvoir en place, civils lorsqu'il s'agissait d'un puissant ou d'une grande famille, et religieux lorsqu'il s'agissait de l'Église catholique qui dominait alors. Alors, bien évidemment, il n'était pas très convenable ou bien vu que des femmes circulent au milieu d'hommes, en général jeunes, qui devaient, de par leur charge de travail et la complexité de leurs activités artistiques, renoncer au mariage pour sans doute canaliser leur énergie sur leurs activités. Et c'était une règle. Et de toute façon, une femme désirant ou obligée de fonder une famille n'était certes pas au bon endroit dans un atelier de peinture ou encore moins de sculpture, puisque cette dernière activité était jugée peu compatible avec la nature féminine. Ce qui peut se comprendre, car il est vrai que la sculpture demande des efforts et de la force physique, bon, à l'époque déjà, encore maintenant, c'est une activité... on va dire plutôt sportive, vu les charges, de plus c'est salissant, et pour reprendre une expression à la mode, pas très glamour. Bon, je confirme, hein, même avec le modelage censé être moins dur, enfin avec les manutentions pour exposer, où il faut traîner des pièces plus ou moins lourdes, avec socle souvent, plus obstacles à franchir, genre escalier à monter ou descendre par exemple, bon, tout ça, ça impose quand même des dictats bien spécifiques. Bon, ceci dit, des femmes parviennent à s'immiscer, et notamment en peinture, ben, souvent parce que leur père est lui-même peintre et maître d'atelier, ou parce qu'elle fréquente la seule université ouverte aux femmes, laquelle est située en Bologne, en Italie. Et nous verrons que Bologne deviendra, grâce à cette université accessible aux femmes, le terreau fertile et privilégié pour donner naissance à bien des talents. Bon, malgré tout, celles qui parviennent à exercer leur art sont quand même cadrées, soumises à des dictats de mœurs, et en effet, elles n'ont pas le droit d'étudier le nu, bon, masculin bien entendu, mais non plus le nu féminin. Bon, aussi se débrouillent-elles comme elles peuvent, et en général en copiant les modèles peints par les hommes, ou alors peut-être qu'elles se regardent dans un miroir, hein, c'est possible, pourquoi pas. Bon, ceci dit, elles étaient principalement cantonnées à réaliser des portraits ou des natures mortes, ce qu'on appelle des œuvres mineures, et les œuvres majeures, comme les scènes bibliques militaires ou de prestige, de grand format également, étaient confiées à des hommes. Alors, malgré tout, certaines parviennent à s'affranchir plus ou moins bien des dictats sociaux et acquérir renommée grâce à leur talent, leur aura également, et aussi pour certaines leur acharnement. Alors, parmi ces femmes, je citerai une sœur nommée Catharina de Vigri, à la fois religieuse érudite, diffusant la culture dans son couvent, et femme de son temps, qui s'adonne aux arts et donc à la peinture religieuse, bien sûr. Cette femme religieuse peintre fera l'objet d'un culte dès son vivant et sera d'ailleurs canonisée au XVIIIe siècle. Et il est dit qu'elle vivait son art, la peinture, comme un acte spirituel. Et c'est l'une des femmes qui participa à influencer l'art au féminin, notamment dans la ville de Bologne. Alors certaines s'attachent les faveurs des grands pour leur qualité picturale, hein, j'insiste bien sur ce fait malgré la séduction de certaines, et c'est le cas d'Onorata Rodiana, femme italienne peintre du XVe siècle, spécialisée dans la peinture de fresques et qui fut la protégée du marquis Gabrino Fondolo, qui lui confia même la décoration de son palais. Bon, c'est quand même une preuve de confiance dont il reste trace. Alors il est vrai qu'Onorata est une personnalité, d'autres diraient que c'est un personnage, elle est même devenue une légende non seulement en raison de la qualité de son travail d'artiste, mais aussi parce qu'elle s'est engagée dans l'armée après avoir subi quelques déconvenues que je vais vous livrer maintenant. Et en effet, elle aurait été victime d'un indélicat, on va dire cela comme ça, qui au moment où elle réalisait une fresque, c'est-à-dire en plein travail artistique, a déjà osé l'interrompre, hein, et surtout lui manquer de respect en venant même aux mains, ce qui a mis la dame très en colère, si bien qu'en deux temps trois mouvements, elle a troqué son pinceau contre une arme pour trucider son agresseur. Bon, à la suite de cela, vu la conjoncture, elle n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir, déguisée en homme, et paraît-il, elle aurait dit « Mieux vaut vivre honorée hors de ma patrie que déshonorée dans ma patrie ». Or, malgré tout ce scandale, son mécène et commanditaire, le marquis Fondolo, trop satisfait de ses services d'artiste, aurait pris sa défense pour la faire revenir, sauf qu'entre-temps, elle se serait engagée dans l'armée, comme quoi l'anecdote lui a donné d'autres idées, ainsi peut-être qu'un moyen d'évacuer sa colère en l'utilisant pour défendre sa patrie. Messieurs, vous qui m'écoutez, peut-être dois-je vous dire de vous méfier des femmes artistes au cas où vous auriez quelques idées pas très claires dans la tête. Car elle n'est pas la seule. Du moins à ces époques, 15e, 16e siècle, bon, peut-être pas pour éliminer définitivement l'agresseur, mais au moins lui laisser quelques petits souvenirs bien sentis, évidemment pas ceux qu'il escomptait, mais quand même de quoi l'impressionner pour un bon bout de temps. Et c'est le cas justement de l'un d'eux qui passait un mauvais moment sous les doigts de la peintre italienne Artemisia Gentileschi, ou Gentileschi, dont on est presque sûr qu'elle exorcisera son traumatisme grâce à l'une de ses peintures nommée Judith décapitant Holoferne. Bon, tout un programme hein, qui laisse supposer qu'elle n'allait pas dans la dentelle. Bon, je vous rassure, elle n'a décapité personne, hein, ce n'est pas cela que je veux dire. Artemisia était un peintre réputé né fin du XVIe siècle. Elle devint peintre de la cour, l'une des premières à peindre des sujets historiques ou religieux, thème jusque-là réservé aux hommes. Et il faut dire que sa chance artistique fut d'avoir eu un père à peintre disposant d'un atelier et qu'elle en a sans doute profité. Alors malgré ce parcours artistique sans tache, hein, elle eut le malheur d'être violée, sa beauté attirant la convoitise. Alors on connaît toute l'histoire parce que sa plainte et les conditions du viol ont été consignées dans les registres de l'époque. On le sait qu'elle s'est débattue violemment, bec et ongles, hein, si l'on peut dire, si bien que le violeur a même craint pour l'intégrité de ses précieuses parties. Bon, j'en sais pas plus à ce sujet, ne tient pas spécialement à le savoir. Tout ce que je peux dire, c'est par rapport à ce fameux tableau qui représente deux femmes en train d'égorger et décapiter un homme, c'est que l'une d'elles aurait le visage d'Artemisia et Holoferne, l'homme, celui du violeur. Alors pour justifier de la violence du tableau avec cette mise en scène où elle se retrouve sous les traits de Judith, il faut savoir en plus que sa plainte n'a pas été validée tout de suite et que Artemisia aurait été humiliée, voire torturée avant que son violeur ne soit condamné et elle l'avait de tout opprobre. et dans certains coins du globe, hein, encore maintenant. Je rappelle qu'une situation comme celle-ci se vit encore quand elle ne conduit pas l'attentatrice à l'exécution. En tout cas, mesdames et messieurs, appréciez à quel point nous baignons dans une atmosphère ouatée de douce féminité en abordant l'art pratiqué par les femmes. Alors, nous évoquons celles qui sortent de l'anonymat, car outre le talent, elles ont été distinguées par les événements, mais un argument ressort pour justifier d'un regain d'intérêt à leur égard, et notamment de la part des hommes, c'est lorsque l'artiste est en plus une belle femme. Alors, c'est le cas pour la peintre Elisabeth Siriani, dont l'un des tableaux, Une Vierge à l'enfant, exposé à Washington au Musée national des femmes dans l'art, The National Museum of Women in the Arts, nous prouve avant tout son talent artistique. Alors, Giorgio Vasari, d'ailleurs, le critique d'art de l'époque, mentionne la beauté de certaines de ces femmes, même s'il conçoit qu'il s'agit de femmes de talent. Alors pour ma part, je ne reprocherai pas à un homme d'apprécier la beauté, étant donné que je suis la première à m'extasier devant la beauté, quelle qu'elle soit, physique entre autres, autant masculine que féminine d'ailleurs, sans arrière-pensée. C'est parce que je suis née comme ça. Hein. Nous pouvons discuter de ce qu'est la beauté, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, sauf que la beauté de ces femmes suscite le désir masculin, et pourquoi pas, hein, ce sont des pulsions naturelles de vie, sauf que le talent de ces dernières, vu le peu de place qu'on leur accorde pour s'exprimer, risque de passer au second plan, voire inaperçu, et c'est dommage pour nous, pour la culture en général. Et pour certaines, c'est même dramatique lorsqu'elles sont en plus malmenées. Alors on le dit également pour l'italienne Properzia de Rossi, qui elle fut sculpteur et notamment graveur au début du XVIe siècle, en plus d'être poète et musicienne. Alors c'est l'une des seules femmes sculpteurs, hein, sinon la seule, ayant réussi à s'affirmer grâce à la qualité de son travail, et elle fut une pionnière pour exercer en professionnelle. Elle travaillera sur le chantier dédié à la cathédrale Saint-Pétrone de Bologne, ce qui est considéré à l'époque comme un grand honneur. Elle réalisera des marbres, des bas-reliefs, et elle aurait été calomniée. On lui prête des mœurs légères, des traits de caractère difficiles, notamment pour justifier le fait qu'elle ait eu à subir deux procès, où elle est accusée pour l'un d'avoir endommagé une propriété et pour l'autre d'avoir agressé un peintre. Alors il est vrai que l'humain, lorsqu'il est homme, a du caractère, avec le même caractère une femme, surtout lorsqu'elle ne rentre pas dans les clous et pratique en outre une activité dite masculine, c'est-à-dire physiquement laborieuse, elle a mauvais caractère. Bon, il vaut mieux excuser celles qui l'ont vraiment, un mauvais caractère, et qui enquiquinent tout le monde parce qu'elles empruntent les chemins balisés pour elles, que les autres parce qu'elles dérangent. Bon, c'est classique, hein, rabâché depuis des lustres. À mon âge, je connais la chanson, celle-là aussi on me l'a sifflée. D'ailleurs, il a été dit au sujet de Properzia qu'elle aurait été confrontée à la jalousie professionnelle. Les hommes supportant mal son succès et le fait qu'elle vive avec indépendance et sans suivre les chemins balisés pour les femmes. Bon, alors peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, si oui, cela ne m'étonne pas. Alors, ceci dit, d'autres femmes du XVIe siècle font leur preuve en tant que peintres. Et je citerai parmi elles l'italienne Plotilla Nelli, une autre religieuse de la Renaissance, considérée comme la première peintre florentine, même si elle n'a peint que des sujets religieux. Alors c'est également au XVIe-XVIIe siècle, l'italienne Lavinia Fontana. Nous revenons à Bologne où elle est née. Sa chance, ce fut d'avoir un père peintre nommé Prospero Fontana, qui sera pour sa fille un protecteur. Elle sera privilégiée de pouvoir apprendre chez lui, étant donné que les femmes étaient généralement exclues des ateliers d'artistes. Celle-ci exercera avec succès et peindra pas moins de 135 tableaux, et de grandes familles bolognaises lui passeront des commandes, et même le pape Grégoire XIII l'appréciera suffisamment pour lui commander son portrait. Alors elle épousera un peintre qui s'effacera même devant le talent de sa femme, ce qui est rare pour un homme, même si son talent à lui est moindre, et ce qui était, paraît-il, le cas. Et de plus, il la soutiendra en devenant en quelque sorte son agent, son mentor, pour lui trouver des commandes, faire sa publicité, etc. Alors c'est un parcours de femme artiste de talent parfaitement ouvert, un chemin sans obstacle notable, ce qui est rare, et sa chance est d'être née dans un environnement compréhensif qui assiste et soutient au lieu d'étouffer, et elle le doit en grande partie à ces deux hommes, son père et son mari. Alors sans être peintre, un autre père éclairé et ouvert soutiendra ses filles artistes, déjà en leur dispensant comme à tous ses enfants, garçons et filles, une éducation artistique solide dès l'enfance. Et il s'agit des sœurs Anguissola, Elena et Sophonisba, qui étudieront même l'art dans un atelier en vue auprès du peintre Bernardino Campi. Alors Sophonisba atteindra au XVIe-XVIIe siècle une position privilégiée comme peintre de la cour à Madrid auprès de Philippe II. Elle jouira d'une grande renommée, surtout grâce à ses talents de portraitiste, jusqu'à devenir même par la suite une référence pour de grands maîtres comme pour le peintre Van Dyck. Alors malgré ces exceptions, et comme je l'ai mentionné plus haut, l'époque tentait de contenir les velléités d'expression picturale des femmes en leur interdisant de fréquenter les ateliers d'artistes, de dessiner des nus, ce qui d'un point de vue anatomique les pénalisait et les contraignait à trouver des subterfuges, et notamment en copiant des modèles peints par les hommes. Et ceci dit, malgré les interdits, eh bien, c'est Lavinia Fontana, la première femme, qui a osé peindre un nu, et il s'agit d'une Minerve s'habillant, datée de 1613. Bien, mais je me rends compte, encore une fois, que le temps s'est vite écoulé, lorsque j'ai entrepris mes recherches, même si je savais que les femmes étaient capables de s'exprimer à travers l'art, je ne pensais pas qu'elles étaient si nombreuses. Et la plupart s'étant malgré tout affirmées avec force et talent, malgré les obstacles. Les retrouver m'a permis de les mettre en lumière, en tout cas de leur donner la place légitime qu'elles méritent au sein de la culture et de l'éducation à côté des hommes. Et c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter. J'espère que vous prendrez plaisir à me retrouver en leur compagnie pour la prochaine émission, car ce sujet sur les femmes artistes, artistes-femmes, n'est pas épuisé. Je rappelle que La Voix des Arts est diffusée sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3, le lundi à 13h30, le mardi à 16h15 et le dimanche à 22h30. Cette émission est la numéro 31 qui sera diffusée pendant 15 jours. Le premier volet consacré aux femmes, le numéro 30, et où sera à retrouver en podcast avec toutes les autres émissions enregistrées. Sur ce, à bientôt et merci de votre attention.